Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. Film intérieur, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.
Ta faute aussi. Pourquoi ne parles-tu pas ? Elle ne sait que dire. Cette nouvelle lui fait l'effet d'une bombe. Il devrait comprendre pourquoi elle ne parle pas. Alors, elle se sauve en courant, sans répondre. Content que ce soit fini. Oui, fini. Petit à petit, elle a mal. C'est fini, je ne le reverrai plus. Plus, mon Dieu. Et moi ? J'ai fait tant de choses pour lui. C'est injuste. Elle passe ses jours à pleurer. Puis, elle sort. Elle sort pour se faire du bien. Malheureusement, ses pas l'amènent vers chez Benoît. Et ça lui fait mal. Et en même temps, du bien. Alors, elle passe plusieurs fois devant chez lui. En rêvant à lui. En s'imaginant qu'elle le rencontre. Et désormais, chaque jour, elle ne peut s'empêcher de tourner autour de chez lui et passer plusieurs fois devant son allée, tristement, en pleurant ou en ayant de la colère. soir, n'en pouvant plus, elle entre dans son allée. Monte jusqu'à son étage. Et n'ose pas sonner. Puis, redescend. Et sort de l'immeuble. Là, dans la rue, elle tombe sur la jeune fille qui la regarde avec dégoût, lui demande « Qu'est-ce que vous faites là ?
Je n'ai dit plus venir. »
« Va-t'en, la vieille. »
La femme la gifle.
Et retourne vers... chez Benoît.
Elle frappe. Chez Benoît, tu l'as ouverte en robe de chambre. Il est surpris. La laisse entrer. Presque en même temps, entre Zazie, qui dit à Benoît,
j'ai dit à cette vieille de ne plus venir ici.
Alors elle m'a giflé. Benoît furieux dit à Elisabeth,
j'avais dit de ne plus revenir, et je t'interdis de faire du mal à ma copine.
Un geste brusque, il bouscule Elisabeth qui tombe à terre. Et avant qu'elle ne se relève, il va prendre une cravache qui est accrochée au mur. Et avant, et la fouette. Elle essaye de pas crier. Zazie crie, vas-y, vas-y, salope. Vas-y. Elisabeth, sans les coups, sans broncher, les reçoit. Elle a très mal. Elle ne peut se relever à cause des coups. Puis Benoît lâche sa cravache. Fatigué lui aussi. Soulève légèrement la femme qui est à terre et la pousse dehors. Elle essaie de résister malgré le mal. Elle sait que c'est fini. Qu'ils ne reverront plus, qu'il ne la reverra plus. Qu'elle ne le reverra plus. Tant qu'elle est là, elle est malheureuse. Elle est près de lui.
Il ouvre la porte. Et la force de Benoît, il ne pleure rien. Et se retourne sur le paillet. La porte se referme. Benoît lui crie derrière la porte. Ne reviens plus ici. Elle se relève. Meurtrie. Les vêtements sales, déchirés. Elle a mal de partout. Pleure. Elle se dit que c'est bien fini.
Elle réussit à rentrer chez elle, à pied, pour se punir. Elle fait tout pour ne pas être vue. Elle monta sa jambe sans être vue, se déshabille, prend un bain, se couche. Meurtrie. Elle dort mal à cause des coups qui lui font mal, surtout à la tête et au petit doigt gauche. L'os est peut-être cassé. Le lendemain matin, lorsqu'elle se lève, elle a un mal de tête terrible, plein de courbatures et mal à son petit doigt. Elle ne veut pas penser à son amour. C'est fini. Oui, c'est bien fini. Et puis cette humiliation qu'il lui a faite. Et dire tout ce que je lui ai donné, ce salaud, je pourrais me venger et le faire renvoyer de son assurance, car je suis une résiliente, je le peux.
Elle se lève. Pour aller dans un centre de bain.
Elle s'arrange pour cacher ses bleus et ses rougeurs. Et un mal de tête. Elle se dit, c'est fini, bien fini avec ce fumier. Oui, bien fini avec ce fumier. Puis, elle ne souffre plus. Son amour se transforme en haine et même dédain. Pour qui se prend-il ce morveux? Il faut un bon couple tous les deux. Avec cette fille. Où l'a-t-il trouvée? Elle est vulgaire. Elle ne sait pas se tenir. Il paraît qu'il a rencontré un Vauvelin. Cela ne m'étonne pas. Je vois le genre. La mère avec un cardi et son parcan. C'est bien beau pour lui. Elle ne l'aime pas, mais comme elle est au chômage, elle cherche à se caser. Elle a trouvé. Dans un mois, elle le regretta, ce Minus. Elle va bien lui faire vivre une vie de prolo, dans un décor castot, des babioles de Vogue, des souvenirs de vacances VVF. La télévision, voiture Renault, HLM, le pauvre, le bel avenir. Elle sera toujours au chômage. Pour avoir les allocations, elle va lui faire deux ou trois gosses et se fera inscrire comme femme seule avec enfant pour toucher des aides de toutes sortes. Il viendra la voir en cachette. Oui, bel avenir, bel avenir. Sa vengeance, c'est imaginer cela. Toute la journée, elle est faible, est obligée d'aller se coucher. De trop penser, elle a pris la migraine. Les jours passent. Elle a oublié tout ça. Un jour, en passant dans la rue où ils habitaient, elle est entrée dans la boulangerie. La boulangère la connaît parce qu'elle l'a vue souvent passer. C'est une femme corpulente blonde. Elle lui dit, « Vous savez, les gentils jeunes gens chez qui vous alliez, eh bien, ils sont partis, paraît-il, à Bordeaux. Vous le saviez ? » ?»«
Oui, donnez-moi un petit pain au chocolat. Merci. »
Et elle la quitte. Et la tristesse de son amour fou lui revient. Les jours passent. À une de ces soirées, elle remarque un jeune homme d'une très grande beauté, grand, mince, cheveux châtains, habillé d'un costume. Elle remarque qu'il est très poli avec les gens. Elle va vers lui et lui demande «
Puis-je vous demander qui vous êtes ?
Je suis la maîtresse de maison. Je m'appelle Sylvain.
Et que faites-vous ?
Je suis étudiant. Mes parents sont issus d'une grande famille de parfumeurs. » Puis le jeune homme semble gêné par ses questions. Il est vrai qu'il semble être très jeune, dans les 18 ans.
Que faites-vous comme étude ?
La littérature du Moyen-Âge.
Il doit être très intéressant. Vous semblez un peu à un chevalier.
Oui, je vous imagine bien en galade. Pourquoi ?
Parce que c'est celui que je préfère.
Moi aussi, parce que c'est le plus pur. Tout est pur en lui.
Oui, il a même un côté irréel tellement il l'est.
Vous avez raison. D'ailleurs, je ne sais pas si d'après la légende primaire, il ne serait pas un dieu ou un demi-dieu solaire. C'est tout à fait possible, car pour des raisons de censure, on a christianisé ces histoires qui étaient celtiques.
Comme c'est intéressant.
Tenez, le roi Arthur a vraiment existé, mais n'était pas roi, car le roi n'avait pas de roi de se battre. Il devait être un mercenaire avec des hommes à lui qui se battaient à la place des rois, ou plusieurs rois. Et ils parlent ainsi pendant des heures. Cela leur permet de sympathiser. la fin de la soirée, il y a une certaine complicité entre eux. Avant qu'ils ne partent, elle lui demande « Où habitez-vous ?»«
Dans un appartement, avec un ami. » »«
Au revoir, madame. » »«
Au revoir, Sylvain. »
Et ils se quittent. Les jours passent. Malgré elle, elle pense à lui. Cela lui fait oublier ce terrible Benoît. Un après-midi, elle va à la bibliothèque. À la bibliothèque de son quartier. C'est pas qu'elle n'ait pas de livres chez elle ou qu'elle ne peut en acheter. Mais là, elle va chercher des livres pour Denis. Des livres de loi et d'histoire. Donc, elle fait les rayons avec une fiche que lui a donnée Denis. En se dirigeant vers un rayonnage, elle tombe
sur Sylvain, un livre à la main.
Bonjour. Il lève les yeux et ne semble pas la reconnaître. Je suis Elisabeth Graff. La soirée.
Ah oui, bonjour, excusez-moi, j'étais dans ma lecture.
Que lisez-vous? Je lis des adaptations de romans celtiques par les Allemands. Et le trouve énormément, encore plus beau. Après la bibliothèque, elle l'invite à prendre un thé, un salon de thé près de la bibliothèque. Ils se voient souvent. Comme ça, à la bibliothèque, lui dit le jour et l'heure où il y va. Elle est très intimidée par sa jeunesse et sa beauté. Elle n'ose pas aller trop loin, il a l'air si pur. Termine toujours leur rencontre dans un salon de thé. Vont aussi dans une librairie où Sylvain achète des livres d'occasion. Un jour, le libraire, un petit homme chauve à blouse grise, lui dit « Jeune homme, vous me devez de l'argent. »
« J'attends la pension de mon père, monsieur. Je vous paierai. »
« Non, tout de suite. Autrement, j'arrête de vous de fournir des livres. »«
Oh, monsieur, je vous en prie. »
« Il vous faut combien ?»«
100 francs, madame. » Il sort de son sac un billet de 100 francs et le lui tend. Sylvain est rouge de honte.
Je ne peux pas accepter.
Je n'ai rien. N'en parlons plus.
Et ils sortent du magasin.
Pourquoi avez-vous fait ça?
Comme ça. N'en parlons plus.
Les jours passent. Mais souvent, elle plaît à sa place, le libraire. Elle l'aide comme ça, mais il n'ose pas plus. C'est un fils de bonne famille. Un jour, pour lui dire bonjour, il lui fait la bise. Cela le surprend, lui dit.
Ne sommes-nous pas amis maintenant?
Elle reste avec lui, à l'aider à faire ses recherches. Les jours passent. Elle est heureuse comme ça, malgré le manque de sexe. Mais Sylvain est si beau, gentil, pur. Un jour, il ne vient pas. Des jours passent, il ne vient plus. Il a disparu. Elle va à chaque fois à la bibliothèque, mais il a disparu. Alors elle décide d'aller le voir.
Il est peut-être malade.
Un jour, dans la conversation, il lui avait donné son adresse. Elle avait monté dessus. Noter de suite pour ne pas l'oublier. Il habite une HLM derrière un manufacture des tabacs. L'immeuble est de 1930 ou peut-être moins, peut-être plus. Elle est assez claire au premier étage.
Thank you.
Louvre, jeune homme d'un 18 ans, de taille moyenne, mince, cheveux abondants, sans teint, visage rieur, habillé d'un pull rouge et d'un jean.
Oui, excusez-moi, mais je me parlais à Sylvain.
Entrez, madame. Elle entre.
Petit couloir, il la fait entrer dans une pièce. Entrez. Elle entre. Où se trouve, avachie sur le lit, une fille de taille moyenne, blonde, en jean et pull marine. Elle téléphone. Elle a un côté vulgaire. Elisabeth se dit, pourvu qu'ils ne soient pas avec cette chose. Elle dit au jeune garçon,
je suis venu prendre des nouvelles. Est-il malade?
Non, madame, mais il est rentré chez ses parents. Elle est surprise et demande,
cela vous ennuierait de me donner son adresse?
Non, madame. Il va à une table et écrit sur un bout de papier. Puis il a eu le temps. Tenez, madame.
Merci, monsieur.
Elle le quitte.
Au revoir, monsieur.
Au revoir, madame.
Elle a envie de lui écrire, mais n'ose pas. Après beaucoup d'hésitation, elle fait son numéro de téléphone.
Allô? Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame.
Je suis Elisabeth Scraff. Pourrais-je parler à monsieur Sylvain, s'il vous plaît?
Mais madame, il est très malade. Ses jambes lui font très mal.
Et la communication est coupée.
Sylvain lui avait parlé qu'une de ses jambes avait eu un accident, mais comme ça. Elle est inquiète, lui écrit, pas de réponse, le téléphone non plus. Elle n'ose pas se renseigner, aller plus avant et même aller où il habite. Sylvain est mineur, n'est rien pour elle.
C'est fini.
Encore une histoire sentimentale de fini. Mais celle-là est plus belle que l'autre, car il n'y a même pas eu de sexe. Le temps passe. Benoît est à Québec, un de ses amis, au salon. Un homme grand 5, sec, à cheveux gris rares. L'homme lui dit,
j'adore les livres anglais. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'Angleterre, parce qu'ils vivent d'une façon plus calme que nous, malgré leurs difficultés. La France m'énerve et me fatigue. Dès qu'il y a un problème chez nous, cela part dans tous les sens. Il y a un vrai foutoir qui ne sert à rien. On est le pays qui symbolise la démocratie et on est celui qui est le moins démocrate, ou plutôt où les gens le sont le moins. Tout le monde interdit à ceux qui n'ont pas les mêmes idées qu'eux de s'exprimer. À la fin de chaque élection, on veut jeter à la mer tous ceux qui n'ont pas voté comme soi. Ah, je rêve, c'est de vivre dans un endroit calme, hors du monde.
Elisabeth invite une de ses amies pour le thé, Madame de Hautebord. Tout en prenant le thé, elle parle de leur enfance. Madame de Hautebord lui dit
« Ah, la jeunesse, à notre époque, nous ne vivions pas comme maintenant. Regardez les jeunes filles, comme elles se comportent. Elles s'habillent comme des garçons, ont un vocabulaire vulgaire, le sexe ne leur font pas peur. Bien au contraire, elles effarouchent même certains garçons. Élisabeth lui dit, vous avez raison, je crois que cela prévoit un grand bouleversement. Vous allez voir, il va y avoir une révolution, disons culturelle, et des valeurs. On va supprimer la famille, la société gangrénée. C'est la faute aux ces intellos de gauche caviar. Alors que devons-nous faire? On ne peut rien faire contre le changement, ma chère.
Denis fait la connaissance d'une jeune fille, Élise. Elle est grande, cheveux longs blonds, visage très fin et rieur, s'habille très court. Il l'a connue à l'université, elle prend les mêmes cours que lui. Tout de suite, il a été amoureux. Après l'université, ils vont souvent au café, prendre une boisson et discuter ensemble. Elle aussi aime bien. Elle le trouve très beau. Lorsqu'elle le quitte, elle l'embrasse sur les joues, lui dit, lui caresse ses cheveux, la prend à la taille. Un soir, en la raccompagnant, il lui dit, tu n'attendu pas que je te dise que je t'aime? Elle lui sourit, lui dit, non, pourquoi? Moi aussi. Et elle met la tête sur son épaule. Désormais, il sait qu'il s'aime. Il aime d'une façon pure, il pense constamment à elle. Ils sont toujours ensemble. Il parle et baiser, se dire bonjour ou au revoir, des poignées de main, des caresses tendres, il n'y a rien. Il parle de leur cours, de leur avenir, des livres, des films qu'ils ont vus. Quelquefois, il aide à préparer ses leçons. Ils ne vont qu'au café après les cours et c'est tout. Les rêves de Denis sont... Il ne voit en rêve que ce qu'ils font dans la journée. Les jours passent. Un jour, Denis lui dit, au lieu d'étudier dans un café, pourquoi ne pas aller chez moi? Ne crains rien, j'habite chez mes parents. Bon, je veux bien. Et l'emmène chez lui, c'est-à-dire chez son père. Pour ne pas la gêner et pour la respecter, il l'amène pas dans sa chambre, mais au salon.
Entre, il entre. Là, il retrouve son père. Le père est surpris de le voir avec une jeune fille. Il se lève de son fauteuil. Il va vers eux. Père, je te présente Élise.
Mademoiselle, vous êtes ravissante.
Merci, monsieur.
Mon fils a bien de la chance de vous connaître. Vous êtes si belle.
Vous êtes de Lyon? Oui, j'habite au numéro 15 de la rue Sully. Une petite maison.
Bien. Ah, si j'avais 20 ans. Mais je ne suis qu'un vieux monsieur.
Pas du tout, monsieur.
Appelez-moi Benoît.
Bien, monsieur.
Bien, je vous laisse, étudiez bien.
Et il l'écoute.
Lorsqu'Élise s'en va, elle retrouve le père devant l'entrée.
Vous avez bien travaillé?
Oui, monsieur.
Benoît.
Benoît.
Vous pouvez revenir quand vous voudrez.
Et il lui prend la main pour la lui baiser. Et elle revient souvent étudier avec Denis. Souvent, elle vient avant que Denis ne soit arrivé chez lui. Et Denis les retrouve au salon, riant ou bavardant. Le père dit,
« Élise est extraordinaire. Quelle jeune fille !»
Certains jours, Denis ne la voit pas. Alors, il lui téléphone dans la soirée.
Tu es malade ?
Non, j'ai eu affaire avec ma mère.
Les jours passent. Il continue à l'aimer et elle aussi. Rien n'a changé entre eux. Chaque fois qu'elle va chez Denis, Denis la voit avec son père à discuter. Un jour de toute la journée, n'en a vu ni le père ni Élise. Denis et Elisabeth s'inquiètent.
Où a-t-il pu aller, mon Dieu? Où a-t-il pu aller?
Denis aussi se demande où elle est. Le téléphone a sonné.
Allô? Oui, je suis Madame Scraff. Oh, mon Dieu! Il est grandement accidenté. Ah, oui, bon. J'arrive tout de suite,
elle dit à Denis.
Ton père a eu un grave accident de voiture.
Mais s'en est tiré. Je vais à l'hôpital. Je t'accompagne, maman. Allons-y vite.
Arrivés à l'hôpital, la mère et le fils sont reçus par le professeur Morel, un grand et gros homme, cheveux gris, à visage sympathique, qui les reçoit dans son bureau. Elisabeth demande,
« Comment va mon mari ?»«
Bien, quelques bleus à cause de l'heure, mais il a eu de la chance. La voiture faisait du 120, elle a glissé sur du verglas, ce qui l'a fait cogner sur un muret. Mais malheureusement, la jeune passagère est morte sur le coup, et à côté du chauffeur. »
Demain, Denis devient tout pâle
et demande son nom.
Mademoiselle Élise Dupré.
Il est effondré. Élise. Son Élise. Avec son père. Que faisaient-ils ensemble? Malgré sa peine, il ne peut penser aux conversations qu'ils avaient eues ensemble. Le père et la fille, ils riaient. Ils étaient tout le temps ensemble. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Pensée lui vient. N'étaient-ils pas tous les deux? Le père, peut-être l'amant, et Élise, sa presque fiancée. C'est trop horrible. Il revoit le père dans sa chambre, il est allongé et semble, lui, ne pas aller trop mal. Denis n'ose pas le regarder. Benoît sait ce que son fils ressent. Denis a honte pour son père. Il ne lui en parle pas. C'est un sujet tabou. C'est un peu... C'est son père qui lui a pris Élise. Et Dieu les a punis. Mais lui, Denis, aussi est puni. Il souffre beaucoup de cette mort. Car malgré les tabous, il l'aime encore.
malgré la trahison, il l'aime encore.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, film intérieur dont c'était la 41e partie. Production mise en scène Julien Jean-Pierre, enregistrement CBRP.